bien. Alors, je pense que vous avez pu avoir une petite pause tout en changeant de salle. C'est vrai que comme on a commencé un petit peu en retard, ben, les ateliers se sont finis un petit peu en retard. Et du coup, on commence ce bilan des ateliers aussi. Alors là, très en retard, parce qu'on a 25 minutes de retard. On avait prévu une heure. On s'était dit qu'il y aurait un quart d'heure de chaque observateur et puis une discussion. Donc on va essayer qu'il y ait moins d'un quart d'heure par observateur pour garder un petit temps de discussion. Et puis de toute façon, c'est une discussion qui continuera cet après-midi. Donc j'en profite pour vous redonner le programme de l'après-midi, hein, où on reprend à 13h30, où Pierre Vérillon donc, nous fera un retour à partir des questionnaires que vous avez remplis très gentiment et très scrupuleusement toutes les heures finalement, hein, donc ça faisait du travail. Et donc Pierre nous fera un retour là-dessus. Et après vous aurez un temps d'atelier avec, alors là, de manière autonome. Il n'y aura pas d'animateur, pas de formateur, pas de chercheur. Vous allez être laissé comme ça tout seul. Ça va être terrible. Non, parce que c'est après le temps, après l'intervention de Pierre. Et on fera trois groupes aussi, donc vous le déterminerez comme vous voulez. On n'aura pas la salle 1, mais on y aura un groupe ici, un groupe dans la salle 2, un groupe dans la salle 3. Et c'est un temps d'échange entre vous sur les questions de formation, les questions de ressources et les liens recherche et formation, à partir de ce que vous avez vécu ici, bien sûr, mais à partir aussi d'autres expériences. Les questions qui pourront vous guider, ce sont les questions qui faisaient l'objet de la troisième page du document de questionnaire que vous aviez. Mais vous pouvez donc en avoir d'autres. Et alors, vous avez une consigne extrêmement précise et ferme. C'est que dans ces trois ateliers, dans chacun des ateliers, vous allez désigner une personne qui sera le représentant du groupe ou d'elle-même, en tout cas, qui sera présent à la table ronde qui aura lieu à la suite. Puisque donc la discussion va commencer comme ça en atelier, elle va se poursuivre avec une table ronde qui aura lieu de 15h à 16h. Et dans cette table ronde, donc il y aura trois participants, qui auront été désignés par vous, qui auront déjà travaillé cette question-là. Et puis, il y aura donc des gens de notre équipe qui ont aussi travaillé et puis expérimenté cette question des ressources et des liens entre recherche et formation. Donc, il y aura Christine Ménard, et Frédéric Soja aussi, et Patrick Rayou. Voilà, et j'essaierai d'animer la table ronde avec la discussion, évidemment, autour de tout cela. Et je pense qu'on va dégager des éléments à partir de notre expérience, là, de tout ce qu'on a vécu. Bien, alors c'est... Pardon ? Eh bien, on va se donner trois quarts d'heure en tout. Hein, on va dire qu'on finit à midi et quart, c'est bon ? Donc c'est moi qui dois commencer par faire le retour sur l'atelier numéro 1, l'observation que j'ai faite. Alors si je dépasse le temps, vous me secouez les puces. On va donner 10 minutes. Hein ? Oui. Voilà, oui. Là, on est plus sur la question du contenu de l'atelier, effectivement, que sur les questions, justement, des documents, des ressources, etc. Ça sera plus l'objet de cet après-midi. Hein. On a partagé un petit peu les questions. Donc, moi, quand j'ai observé donc les trois groupes qui sont venus tous les trois dans cet atelier, l'atelier numéro 1 donc, qui est l'atelier au collège. J'ai commencé justement par observer ce que j'ai appelé les activités des stagiaires. Et dans cet atelier, les stagiaires étaient, enfin vous, n'étiez pas seulement en train soit d'écouter, soit de parler. Il y a eu des tas de moments où vous aviez à regarder des choses, à lire, à écrire, à échanger par petits groupes. Et c'était, l'atelier était prévu avec des découpages en différents moments de travail, avec des consignes différentes, avec donc des phases. Alors dans l'atelier, on repérait, enfin, étaient énoncées trois phases d'une certaine manière. Moi, j'en ai repéré quatre. Ça sera à discuter aussi éventuellement, avec une première phase qui était donc un visionnement et des réactions à chaud, on va dire, sur ce visionnement, mais justement avec des consignes écrites et avec une réponse écrite à faire avant d'échanger. Une deuxième phase qui était un nouveau visionnement avec là des questions d'observation, donc là aussi des consignes écrites, et après un travail qui pouvait se faire par deux, par trois, et après un échange, des échanges collectifs. Et la troisième phase, qui était une phase d'institutionnalisation, où là, il s'agissait de dégager des règles, des savoirs professionnels. Donc ça, c'est les trois phases qui étaient annoncées. Moi, j'en ai perçu une autre, une phase que je dirais, enfin, je sais pas, parce qu'à un moment, vous aviez visionné des autoconfrontations des enseignants, de l'enseignant et des élèves, et il y avait une discussion autour de cette autoconfrontation, et qui finalement était dans le dispositif, mais ne fonctionnait pas tout à fait de la même manière du dispositif. Donc, autour de ces activités, enfin, avec ces activités, il me semble que le travail que vous avez fait, qui s'est fait, j'en ai déterminé quatre points, mais bon, il y a un travail effectivement donc de réactif, de réaction qui mobilisait. De mobiliser des affects, on va dire, des expériences, hein, de renvoyer à vos propres expériences, à un ressenti. Et alors, c'est intéressant de voir que les groupes ont fonctionné de manière assez différente. Il y a un groupe où il y avait un ressenti qui finalement était assez homogène, qui était très positif et qui s'est beaucoup exprimé. Et donc là, les gens ont beaucoup dit « c'est super, c'est intéressant, ça m'a plu, voilà, c'est très positif, etc. » Il y a un groupe où le ressenti s'est très peu dit. Il y a eu très très peu de choses qui sont apparues à ce moment-là, beaucoup de retrait, beaucoup de distance dans les propos, hein. Et des choses qui revenaient après au fur et à mesure dans l'atelier. Alors ça aussi, c'est pas parce qu'il y a une phase où on doit exprimer le ressenti nanin qu'il n'existe pas après, hein. Il revient à plein d'autres moments. Et ça, c'est aussi intéressant de voir à quel moment ça arrive et puis ça fait quelque chose dans la discussion. Et puis il y a un autre groupe où il y avait là des ressentis justement beaucoup moins homogènes. Et avec plus de, alors je dirais pas de controverses, mais de différences, on va dire, hein, puisque certains trouvaient que c'était vraiment bien, que ce qu'on voyait, c'était très calme, c'était une démarche intéressante, les élèves, l'enseignant, tout ça, c'était très bien. Et puis d'autres qui disaient, mais non, là, les élèves n'écoutent pas, le prof, il les harcèle de questions, c'est un jeu de devinettes, etc. Donc c'était intéressant de voir que là, il y avait des choses différentes. Donc il y a vraiment eu des choses différentes dans les groupes par rapport à ce premier visionnement et ces premières expressions, on va dire. Après, il y a ce que moi j'ai appelé, je peux vous donner déjà peut-être mes points, un travail de problématisation, un travail de compréhension, un travail de théorisation. Le travail de problématisation, là aussi, il a été différent selon les groupes. Il me semble que, mais ça c'est une observation qu'il faudrait vraiment fouiller davantage, hein, c'est un peu comme ça, c'est complètement comme ça à vif, que quand il y avait eu plus d'expressions de ce que vous pensiez, de ce que vous aviez vu, comme ça, à chaud, on allait beaucoup plus vite dans de la problématisation, dans du questionnement, dans des échanges plus approfondis. Que quand on était resté à distance déjà, on allait sur la pointe des pieds, quoi. Et même pour problématiser, on n'y allait pas beaucoup quand même. Me semble-t-il, hein, mais bon. D'une manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait des discussions, des échanges, mais assez peu de débats. Alors c'est vrai qu'en deux heures, c'est sans doute difficile dans un groupe, hein, que ça se produise véritablement, et que la controverse professionnelle, justement, il n'y en avait pas véritablement, me semble-t-il. Alors, j'ai dégagé un point que j'appelle un travail de compréhension, puisque là, de connaissance ou même d'appropriation d'un dispositif spécifique. Puisque c'était un dispositif spécifique qui était présenté, mais la manière dont l'atelier fonctionnait, on ne nous le présentait pas comme tel au départ. Donc ça se faisait petit à petit, au fur et à mesure, sur un mode de questions-réponses qui se faisait au cours des différentes phases. Et donc il y avait des moments où on demandait de définir vraiment l'atelier, on demandait comment ça s'organisait matériellement, comment ça s'animait, comment les élèves y travaillent, comment le prof y travaille, etc. Ce travail de compréhension, c'est pareil, il a été différent selon les ateliers, les groupes, pardon. Parce qu'il pouvait aller jusqu'à une certaine appropriation. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui étaient là, qui l'avaient déjà expérimenté et qui ont pu faire part de leurs expérimentations et de la manière dont ça se passait pour eux. D'autres qui se mettaient justement, qui se projetaient en disant « mais moi je vais l'expérimenter, je vais essayer, je vais faire, je vais voir » ou d'autres qui pensaient le faire faire à d'autres. Hein, et donc on était un peu jusque dans une certaine prescription, je sais pas, mais bon, c'est vraiment bien, c'est intéressant, on va le faire, on va voir comment ça peut se passer. Donc ça, c'était ce troisième point de travail de compréhension. Un travail de théorisation, alors il se fait, c'est sûr, il est très difficile à observer, il est difficile à décrire. Alors il y a des moments dans l'atelier où on a donné des documents théoriques, où on a donné des ressources théoriques. Il y a eu peu de moments pour les lire, finalement. Dans les questions qui étaient données, il y avait des questions qui mettaient en jeu des concepts et qui interrogeaient d'ailleurs les participants, parce que plusieurs fois ils ont posé des questions. Et ce concept-là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Et puis il y avait des apports théoriques au fur et à mesure. Donc, est-ce que tout ça se lit, se lit pas? Comment ça se lit? Ça se noue, quoi? Je ne sais pas. C'est pas difficile à dire. C'est très difficile à dire. On peut pas vraiment l'observer. Qui théorise? C'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'on utilise des théories? Est-ce qu'on construit des théories? Est-ce qu'on mobilise des théories pour comprendre? Alors comment ça se voit qu'on mobilise des théories pour comprendre? Parce que dans les discours, est-ce qu'on fait référence à des concepts? Est-ce qu'on fait référence à des auteurs? Est-ce qu'on fait référence à des travaux précis? Et tout ça, ça s'est fait pendant l'atelier, pendant les différents moments d'atelier. Alors ça pouvait être par les participants eux-mêmes, hein, là je ne parle pas ni des animateurs ni des chercheurs, les participants eux-mêmes, dans ce qu'ils disaient, pouvaient mobiliser soit des concepts, soit des auteurs, soit des travaux, qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient apportés là, dans l'atelier. Donc ça, c'était intéressant aussi de voir comment tout ça pourrait, s'organise un peu pour tout le monde. Alors dans le troisième atelier, il y a eu un temps différent puisqu'ils ont expérimenté différemment. Le chercheur Dominique là a pris un temps d'apport théorique spécifique qui a duré 5-10 minutes. J'ai pas chronométré exactement. J'ai pas l'impression que ça ait changé beaucoup de choses ensuite. Mais bon, peut-être que les gens ont davantage lu le papier sur les modèles, j'en sais rien. Bon, ça, ce serait à voir. Donc voilà sur la question. Alors, deux petites minutes, j'avais encore plein de choses à raconter sur la question des problématisations. Sur quoi le groupe a le plus problématisé quand même? Sur la question de l'aide, bien sûr. Sur la manière dont le prof aide. Et est-ce qu'il aide en posant des questions? Est-ce qu'il aide... Et quel type de questions il faut poser pour aider? Est-ce que le type d'aide qui était donné permettait d'éviter que les élèves abandonnent? Est-ce que ça leur permettait de chercher autrement, de chercher ailleurs? Est-ce que ça donnait d'autres habitudes aux élèves? Est-ce que ça permettait de prendre en compte réellement les réponses des élèves dans ce temps de travail? Ça interrogeait beaucoup la question du statut. Alors, j'ai pas su trouver le mot exact. Il faudrait que j'y réfléchisse plus. Statut, rôle, identité, position du prof, quoi. Il y a eu beaucoup de discussions, mais sans qu'il y ait vraiment, de manière très très approfondie. Il y avait un peu souvent un consensus comme ça, mais un consensus de surface, hein, me semble-t-il. Mais bon. Alors, est-ce que le prof est celui qui dispense le savoir, hein? Est-ce que c'est lui qui a les réponses? Est-ce que c'est lui qui a la connaissance? Donc il y avait un peu un accord comme ça, que même s'il était détenteur du savoir, bien sûr, il fallait pas trop qu'il le montre, quoi. Il fallait qu'il soit dans cette posture du chercher ensemble, et que si le prof donnait trop, les élèves n'apprenaient pas. Bon, c'est revenu à de nombreuses reprises. Alors bon, est-ce qu'il y a vraiment... Il faudrait réfléchir bien sûr là-dessus. Que les élèves semblaient mieux se débrouiller finalement quand le prof n'intervenait pas. Et donc, il y avait d'ailleurs dans les questionnaires une question sur les décisions du prof, puisqu'on voyait un prof qui le même prof qui intervenait pas du tout, et d'une autre manière, je ne qualifierais pas, puisqu'en fait, il y a des points de vue différents. Et on demandait aux participants, est-ce que vous partagez ces décisions? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors c'était intéressant de voir que certains étaient prêts à répondre à la discussion, à s'investir, et d'autres qui disaient non, je sais pas, je peux pas dire, c'est difficile, etc. Alors ça interrogeait bien sûr justement le travail du prof. Qu'est-ce que fait le prof quand il n'intervient pas? Alors ça, c'est aussi beaucoup, ça a été discuté. Est-ce que observer les élèves, par exemple, c'est un travail? Quand le prof ne fait rien, est assis et ne parle pas, pas ne fait rien. Quand il ne parle pas, est-ce qu'il travaille? Voilà. Donc ça, c'était intéressant, cette discussion-là. Il y a une discussion aussi sur, justement, la question du confort de l'enseignant et de sa fatigue et de sa résistance. Et que, finalement, ce serait mieux s'ils faisaient comme ça, mais ils le font pas parce que c'est plus confortable pour eux de faire autrement. Donc il y a eu un petit peu de discussion là-dessus. En fait, il y a eu peu de discussions sur la question de l'hétérogénéité des élèves. Sur la question du savoir, c'est venu un petit peu, mais ça a été très difficile à traiter, parce que c'était très difficile à définir et que c'était difficile d'avoir un accord sur cette définition. La question de la formation aussi, finalement, a été assez peu abordée. Est venue plusieurs fois la comparaison premier, second degré. Et avec cette question... alors, mais justement, qui n'est pas apparue, finalement, de manière... très forte sur la question du dispositif d'atelier, qui est quelque chose du premier degré qui ne peut pas se faire au second degré, nanana. Non, c'était sur des petites choses, la question de l'affichage. Voilà. Est-ce qu'on peut afficher dans une salle de classe au collège? Quelles questions ça pose et tout? Ça, c'était extrêmement intéressant. Et donc, après, avec toutes les questions de salle fixe ou pas fixe. Voilà. Alors là, ça, je ne raconte pas. Juste pour finir, la question de l'institutionnalisation, comme ça a été dit, la dernière phase qui était prévue dans l'atelier, donc de dégager des règles. Je me suis demandé si c'était de la théorisation, j'en suis pas sûre. Et il me semble que bon, ça arrivait tout à la fin, finalement, les participants dégageaient effectivement des règles, mais il n'y avait pas de réelle discussion, parce qu'il n'y avait plus de temps pour le faire, évidemment, sur la pertinence de ces règles, sur leur efficacité potentielle, enfin bon. Et donc ça, c'était un moment, finalement, qui a pu clore l'atelier, mais qui n'a pas pu donner lieu aux échanges qui auraient été possibles. Voilà.
Donc j'étais observateur dans l'atelier 2, travaillé à plusieurs. Je vais préciser comment j'ai interprété la commande, puisque je suis à la fois présent là dans la restitution en tant qu'observateur et présent lors de la table ronde cet après-midi. Donc je vais là plutôt me centrer sur la thématique de l'atelier. Qu'est-ce qu'on peut retirer des échanges entre les participants, des interactions entre les participants et les matériaux proposés avec l'animateur, etc. Qu'est-ce qu'on peut retirer par rapport à cette réflexion sur la co-intervention et réserver, même si sans doute que ces deux niveaux-là sont pas complètement étanches, réserver plutôt les questions d'usage des ressources, de formation et de relations formation-recherche à la discussion de cet après-midi dans la table ronde. Alors, une précision aussi, chacun de vous a vécu l'atelier, mais je voulais revenir quand même sur une caractéristique de cet atelier qui le différencie peut-être des deux autres ateliers, puisque on avait d'une part affaire à une formatrice qui n'est pas formatrice de métier, c'est une enseignante, Christine Ménard, qui a accepté, et c'est pas évident de s'exposer et de participer à cet exercice assez périlleux, qui est d'animer, d'ailleurs elle s'est présentée comme animatrice de l'atelier, d'animer la discussion de l'atelier, et en plus elle l'a fait sur des matériaux qu'elle ne connaissait pas, On aurait pu imaginer qu'elle le fasse, mais on a voulu lui compliquer la tâche, qu'elle le fasse sur les matériaux de l'Académie d'Aix-Marseille. Ben non, ça s'est fait sur les matériaux de Créteil. Et du coup, il y avait pas de proximité par rapport à ce matériau-là. Donc peut-être, je pense que c'est important de le rappeler parce que ça, sans doute que ça permet de comprendre un certain nombre d'effets qu'on a pu observer dans l'atelier. Alors, une première remarque qui touche aussi là aux questions de formation sur lesquelles on reviendra cet après-midi, mais dans le cas des trois groupes, on a eu une évolution assez comparable, assez similaire, c'est-à-dire dans un premier temps, du point de vue du regard porté sur les matériaux, on avait de façon assez systématique dans chacun des trois groupes ce qu'on pourrait appeler une lecture en creux. C'est-à-dire, au fond, une évaluation. Alors, sans doute que le matériau s'y prêtait, hein, on y reviendra notamment cet après-midi. Il a incité sans doute à cette forme de lecture. Mais en tout cas, dans les trois sessions de l'atelier, dans un premier temps, le regard porté sur ce matériau a mené finalement les participants à mettre en relation ce qu'ils voyaient et ce qu'ils pensaient qu'il faudrait faire, ou ce que la prescription demande de faire en la matière. Et chemin faisant, et là aussi c'est une caractéristique commune aux trois groupes, avec des différences selon la dynamique justement qui a été instaurée et les interactions avec l'animatrice, chemin faisant, le regard s'est déplacé, s'est modifié, pour commencer à dire, mais en même temps il y a des choses intéressantes là-dedans. Alors là je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, au-delà même de la thématique de la co-intervention sur laquelle je vais revenir, mais du point de vue des enjeux, il me semble, par rapport à la formation sur qu'est-ce que ça signifie enseigner en éducation prioritaire, dans des conditions donc où le métier est mis à l'épreuve, on pourrait même parler de triple épreuve qu'a évoqué Françoise hier dans son discours introductif, je pense qu'il y a là un phénomène intéressant à pointer, qui est comment finalement passer de quel problème pose telle ou telle pratique observée à la question à quel problème l'enseignant qui est observé ou les enseignants dans le cadre de la co-intervention s'efforcent de résoudre, à quel problème les enseignants sont confrontés et comment ils s'efforcent de le résoudre à travers les compromis qu'ils opèrent. Je pense que là il y a quelque chose de tout à fait décisif qui est un pas à mon avis tout à fait important à faire franchir en formation parce que sinon on n'est plus sur l'analyse de l'activité mais plutôt sur les représentations que chacun peut avoir de ce qu'il faudrait faire dans telle ou telle situation. Autrement dit, quand on regarde la dynamique des échanges dans chacun des trois groupes, à un moment donné il y a des bascules qui s'opèrent. Alors ça peut être par exemple dans le premier groupe, quelqu'un qui dit justement, hein, de mémoire, bon, ça me paraît poser problème effectivement, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que on observe que finalement, il y a, même si c'est implicite, une sorte de partage des compétences dans le travail qui est engagé, et ça, c'est peut-être intéressant par rapport à la co-intervention. Donc, cette modification du regard qui finalement conduit à se poser la question de qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'activité observée. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Alors là, c'est un peu l'ergonome qui parle, parce que c'est vraiment une posture ergonomique, c'est-à-dire arriver, et je pense que c'est un enjeu en formation, surtout quand on a affaire en formation à des enseignants qui sont souvent portés par des préoccupations vitales par rapport à la formation à l'enseignement en milieu difficile, liées à des difficultés de leur activité plus ou moins contrariée, empêchée. Arriver à se dire que même quand on a affaire, et là aussi je reprends la formule utilisée par un des participants, et peut-être a fortiori quand ça ne marche pas, il y a quelque chose à apprendre de ce qui ne marche pas. Mais ça nécessite d'accepter qu'effectivement, il y a quelque chose à apprendre de l'activité de l'autre, de l'observation de l'activité d'autrui. Et que du coup, on n'a pas forcément les réponses, a priori, par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc ça, c'est un point un peu général, mais je pense que ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que, de manière différente selon les trois groupes, encore une fois, c'est allé peut-être plus vite sur le premier groupe, ça a été très significatif. Il y a eu un moment donné où cette bascule s'est opérée et où on est passé d'une lecture en creux à une lecture en plein, en essayant d'identifier les compromis et de se poser la question de pourquoi c'est ces compromis-là qui sont passés. Et du coup, de passer d'une analyse des occupations auxquelles on voit se livrer les deux collègues en co-intervention à leurs préoccupations, c'est-à-dire quand elles font ça, au-delà de l'efficacité de cette co-intervention en direction des élèves, en quoi ça a une certaine efficacité du point de vue de la construction du métier. Et là, du coup, je relie cette question plus générale à la problématique de la co-intervention. Il me semble que ce qui est ressorti assez fortement, là aussi de manière différente, mais qui est un résultat, on pourrait dire, qu'on a observé dans les trois groupes, c'est que un des problèmes dans la formation autour de cette question de la co-intervention, C'est sans doute d'articuler de manière plus précise et plus dialectique qu'on ne le fait aujourd'hui la question des résultats de la co-intervention sur les élèves et des effets en retour de la co-intervention sur les partenaires engagés dans la co-intervention. Alors, avec, et il faut le préciser là aussi, sans doute un effet de loupe lié au choix des matériaux, hein, je rappelle que c'est les matériaux sous lesquels qui ont été produits par Luc, dans une académie qui a des caractéristiques particulières, puisque là, la co-intervention, elle est surtout au service du développement professionnel des jeunes enseignants. C'est les enseignants d'appui, et l'appui, là, la fonction d'appui, elle porte prioritairement sur l'appui au développement professionnel des néo-titulaires. Donc, effet de loupe, sans doute, parce que ce n'est pas le cas de toutes les académies. C'est moins le cas même de l'Académie d'Aix-Marseille, par exemple, même si c'est aussi un aspect. Mais en même temps, je me demande si cet effet de loupe n'aide pas à voir des aspects du travail enseignant qu'on ne verrait pas justement sans cet effet de loupe. C'est-à-dire le fait que dans l'activité de l'enseignant, dans le travail de l'enseignant, et de ce point de vue, la co-intervention, ça me paraît être un bon analyseur du métier de l'enseignant et des transformations en cours, cette idée que finalement, il y a à la fois une activité relative aux élèves, mais aussi une activité relative à soi-même. Et qu'à certains moments, on ne peut pas gérer les deux en même temps. Et ça aussi, ça me paraît avoir été problématisé diversement par les trois groupes, mais évoqué en tout cas, mis en discussion, avec des prises de conscience. L'une des participantes du dernier groupe disant, par exemple, « Mais là, avec la discussion, je suis en train de penser de me rendre compte que... » Il y a des effets de développement qui ont permis, effectivement, de faire émerger ces deux aspects du travail enseignant, hein, ses résultats et ses effets, du coup, de poser la question de comment on articule ces deux dimensions à la fois productives de la co-intervention. Il faut qu'elles soient productives pour les élèves, mais il faut aussi qu'elles soient constructives pour les enseignants engagés dans cette co-intervention. Comment s'articulent ces dimensions productives et constructives dans le travail de l'enseignant et dans le cas particulier de la co-intervention? Ça me paraît être des problématiques neuves en formation, enfin, qui jusqu'à présent ont rarement été abordées à ces termes-là, et je fais l'hypothèse, et l'observation que j'ai pu conduire sur les trois groupes me confirme que sans doute cette hypothèse a une certaine validité, que c'est la non-prise en compte de ces deux dimensions-là et de leurs articulations qui souvent fait problème en formation et qui se traduit par le fait que les formés ne trouvent pas leur compte dans les propositions de formation. Parce que, surtout quand il s'agit de former exerçant en milieu difficile et a fortiori néo-titulaires, ils sont encore une fois mus par des préoccupations qui sont quasiment des préoccupations vitales à certains moments et qui sont prioritairement des préoccupations relatives à leur propre activité. Comment faire usage de soi pour faire face aux multiples défis que posent les situations professionnelles quand on enseigne en éducation prioritaire? Et on voit bien que de ce point de vue, alors là encore avec l'effet de loupe, hein, je pense qu'il faut préciser à nouveau qu'il s'agit bien de cet effet de loupe, on voit comment les deux enseignantes là qui ont été mises en scène à travers les matériaux proposés, finalement instrumentalisent la co-intervention au profit, au service de leur propre développement professionnel. Mais du coup, et ça aussi c'est un point qui a fait objet de discussions progressivement dans les trois groupes, du coup est-ce que même si d'une certaine façon les résultats de la co-intervention ne sont pas tout à fait là où l'institution les attendrait, puisqu'ils sont plutôt du côté des effets en retour sur les enseignants, est-ce qu'il n'y a pas des effets indirects, ça a été soulevé par plusieurs groupes, hein, des bénéfices indirects du côté des élèves? D'ailleurs, les protagonistes en question parlent de disponibilité accrue à l'égard des élèves. Est-ce que le fait, finalement, de permettre une sorte de recyclage de ces préoccupations qui empoisonnent la vie des néos, là, en l'occurrence, et quelqu'un parlait d'effet miroir que produit la co-intervention, je vois dans l'autre des choses qui font problème dans ma propre façon de faire, je m'en empare, et du coup, je retrouve du pouvoir d'agir, et du coup, je suis à nouveau disponible pour observer de manière plus... me centrer davantage sur l'activité des élèves. Donc là, il me semble qu'il y a vraiment des choses tout à fait intéressantes qui ont émergé, qui n'ont pas été problématisées, si ce n'est qu'elles ont été reprises par Luc à la fin, à travers l'intervention qu'il a pu faire, la modélisation, mais qui étaient en germe, compte tenu dans les discussions des trois groupes, et qui, à mon avis, mettent le doigt sur des points un peu aveugles jusqu'à présent dans les questions de formation, avec une tendance à se centrer, à regarder les choses plutôt du point de vue de l'activité des élèves et assez peu du point de vue du métier, de ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, de quel type d'usage de soi il faut mettre en œuvre pour pouvoir être efficace en direction des élèves. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui me paraît, que moi je voulais pointer parce que c'est apparu très fortement à travers les trois observations que j'ai conduites. Et sans doute que là aussi, alors on y reviendra cet après-midi, mais le choix des matériaux successifs, d'abord une séquence de classe, puis des autoconfrontations, ou en tout cas des entretiens semi-directifs, qui ne sont pas tout à fait des autoconfrontations, mais peu importe les nuances méthodologiques, ont permis progressivement de se rendre compte qu'effectivement, pour comprendre ce à quoi s'occupaient ces deux collègues, il fallait se poser la question de quoi elles sont préoccupées et en quoi elles cherchent à utiliser la co-intervention comme une manière justement de faire quelque chose de ces préoccupations pour retrouver, alors je finirai là-dessus, une des discussions qui s'est amorcée, c'est finalement comment passer d'une co-intervention ou d'une co-animation, voire d'une co-présence de nature affinitaire à une co-intervention professionnalisée. Et je me demande à la relecture de mes notes si c'est une bonne manière de poser le problème. Parce que je pense que dans la coprésence qu'on qualifie d'affinitaire, il y a déjà en germe une professionnalité émergente. Ce que je veux dire, c'est que cette affinité-là, quand on regarde justement les matériaux, et ça a été pointé par plusieurs participants, elle n'est pas liée qu'à du relationnel. Elle a à voir aussi avec de l'efficacité. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir connecter ces deux dimensions. Il y a à la fois de l'interpersonnel, mais il y a aussi de l'efficacité accrue, un sentiment d'efficacité accrue, qui, lui, a à voir avec la question du développement professionnel, de la construction des compétences. Donc, je pense que là aussi, je vais finir là-dessus, mais du coup, ça re-questionne cette question de la co-intervention, ça re-questionne ce qu'on met derrière professionnalisation. Est-ce qu'on est tous d'accord? Et je pense que c'est là aussi la tendance qui émerge, c'est que finalement, la professionnalisation, c'est un processus de développement professionnel qui passe par des étapes, par des paliers, où on ne règle pas tous les problèmes en même temps, et où, par exemple, le recours au modèle dominant aujourd'hui du praticien réflexif peut occulter justement cette temporalité de la construction de la professionnalité. On n'est pas d'entrée de jeu, quand on est néo-titulaire, et même peut-être plus expérimenté, on n'est pas d'entrée de jeu un praticien réflexif. Il y a des conditions à réunir, et il y a une efficacité dynamique qui fait que les critères qui permettent d'évaluer ces paliers d'efficacité ne sont pas les mêmes aux différents niveaux de degré de construction de l'expérience professionnelle et de nature des préoccupations qui leur sont associées. Donc là, je crois que du coup, il me semble que ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la réflexion sur la co-intervention, du coup, ouvre sur une réflexion plus large sur qu'est-ce que c'est que le développement professionnel et finalement, comment dans la formation identifier justement ce qui est à un moment donné l'organisateur fort de l'activité d'un enseignant. Chez les néos, c'est précisément ces préoccupations relatives à l'usage de soi. Et comment recycler cette préoccupation pour déplacer cette préoccupation du côté de l'activité des élèves, c'est-à-dire passer de questionnements relatifs à l'activité par rapport à soi à des questionnements relatifs à l'activité en direction des élèves. Et je pense que la co-intervention, là, encore une fois, elle produit justement, c'est un bon analyseur de ce questionnement-là. Voilà.
Alors, sur le troisième atelier, c'était accompagner le travail personnel. Donc, suite à ce qui s'est dit là avec Françoise et Frédéric, donc sur la question des matériaux, dont nous c'était quelque chose un petit peu particulier. Alors, je ne sais pas quel est le terme que Patrick a employé, ringard, voilà, ringard sur les matériaux papier. Ce qui est intéressant dans cette manière de présenter, c'est que ça s'est fait aussi en trois temps, c'est-à-dire un premier temps où on a distribué un document qui est en fait un document qui est remis à un élève. Enfin, remis aux élèves et pour lesquels ils devront s'acquitter puisqu'il s'agit de devoirs hein, qu'un professeur de SVT donne aux élèves et qu'ils doivent réaliser, bien sûr, chez eux ou en aide au travail. Puis, un deuxième temps, c'était la transcription des échanges qui ont lieu entre une élève en particulier, Safia, et l'assistante pédagogique qui a en charge, bien sûr, l'accompagnement éducatif et qui va se retrouver en présence de Safia, qui doit faire ce travail donc de SVT. Et puis un troisième document qui était finalement les prescriptions annotées par le chercheur ici présent, donc Patrick, qui finalement essayait de pointer certaines analyses issues de cette transcription et donc de cette interaction entre l'assistante pédagogique et Safia. Voilà, alors ça c'était pour les documents. Évidemment là, on a ça va générer, je dirais, d'autres réactions au niveau des groupes de manière générale par rapport à ce qui s'est passé précédemment. D'une part parce qu'on n'a pas de vidéo et d'autre part, je dirais, parce qu'on a le document auquel est confronté l'élève et qui du coup a mis les participants dans cette situation-là. Alors, moi, ce que j'ai pu noter de ma place d'observation, c'est que, bon, à la fois aussi la manière dont c'est amené par l'animateur, mais aussi, il y a eu, sur les trois groupes, deux groupes qui se sont mis dans une position, et puis le groupe de hier après-midi dans une autre position, je dirais, et plutôt la position, Fred parlait tout à l'heure de, soit on regarde l'activité à partir du point de vue de l'élève, soit on la regarde à partir du métier en construction. Moi, je dirais que, évidemment, votre statut n'est pas anodin non plus, et le deuxième groupe s'est mis dans la position du formateur. Et donc, il a eu une relation à ce document, non pas en tant qu'élève, et du coup, non pas tout de suite en tant qu'assistant pédagogique, et ce que ça implique pour moi en tant qu'assistant pédagogique, que d'accompagner le travail de l'élève, mais s'est mis dans la place du formateur. Et évidemment, là, peut-être cette réaction en creux hein, dont on parle en disant mais c'est quoi ce document hein, franchement, qui est mal fait, les questions sont incompréhensibles, c'est irréalisable. Et du coup, évidemment, hein, ça ramène. Alors, soit les collègues ont été très, très, très gentils, très bienveillants, et donc ils ont ramené ça à Belin, puisque c'est de là dont est tiré l'ouvrage, dont est tiré le document. Mais quelque part, bon, il y avait un petit peu aussi en creux l'idée de dire, ce professeur, quand même, il n'a pas été très attentif, et s'il avait bien fait une analyse a priori didactique, il aurait bien vu qu'il y a des obstacles épistémologiques, à savoir que lorsqu'on demande à un élève de 6e de montrer puis de démontrer, eh bien, ça appelle probablement une grande connaissance, hein, et qu'est-ce que ça veut dire démontrer, selon qu'on est en mathématiques, selon qu'on est en ASVT, et là, oui, tout le monde a pu rebondir sur les difficultés que l'assistant pédagogique allait rencontrer pour amener l'élève, évidemment, à passer, hein, à assumer ce passage de la monstration à la démonstration. Bien. Alors, partant de là, moi, il me semble que sur cette question-là, qui est une question finalement extrêmement vive, hein, qui est celle du travail personnel, ça suscite bien sûr des réactions à fleur de peau, hein, des réactions à fleur de peau, je dirais, auprès des élèves, parce qu'ils savent que ce devoir-là, il pèse considérablement sur eux. Ça pèse très lourdement sur les assistants pédagogiques, du coup, qui se retrouvent investis de cette réussite, hein, du côté du prof, qui lui aussi va devoir faire la preuve au niveau de ses collègues, des élèves, de sa hiérarchie, qu'il est un bon prof et qu'il est juste dans la bonne limite, hein, est-ce qu'il donne assez de devoirs? Oui, assez, mais pas trop, mais quand même un peu. Et puis au niveau des parents également, parce qu'il faut aussi qu'ils se positionnent, hein, selon qu'il est en primaire ou pas, avec les dilemmes dont on parlait hier, c'est-à-dire il va devoir arbitrer, il va devoir faire des choix, il va devoir prendre sur lui et décider que malgré l'interdiction de 1956 et les répétition du gouvernement de dire il y a interdiction de faire des devoirs écrits, eh bien là on a toute une profession, on a tout un ensemble d'enseignants qui va devoir faire ses choix et de dire quel compromis je fais sans me compromettre, c'est-à-dire en respectant la loi mais aussi en respectant mes valeurs et ce que je mets derrière le fait d'accompagner ou pas l'élève. Donc ça c'est bien sûr une question vive et tout le monde en est bien conscient, hein, donc ça rend cette question assez difficile. Alors moi ce que j'ai pu observer des trois groupes globalement, ce sont des questions qui se sont posées à trois niveaux de manière assez distincte. Et là, j'ai trouvé intéressant parce que la difficulté, mais probablement parce que le temps était assez court, la difficulté s'est portée sur comment on articule ces trois grandes familles d'acteurs, hein. Donc, dans le temps, ça a été très découpé. Donc, globalement, vous avez commencé par les élèves, en vous demandant finalement quelle est la nature des difficultés qu'en rencontrent les élèves, et notamment les élèves qui sont en réseau ambition réussite. Alors, vous vous êtes tous mis d'accord sur l'idée que ces difficultés ne sont probablement pas d'ordre cognitif et que chez les élèves de réseau mission réussite, il n'y a pas plus de difficultés, hein, que chez d'autres élèves issus de milieux plus favorisés. Pour cela, il y avait unanimité. Ensuite, on se pose la question, ces difficultés sont-elles plutôt d'ordre ou du registre culturel? Sont-elles plutôt du registre social? Et si c'est le cas, c'est-à-dire si ces difficultés sont à la fois culturelles et sociales, alors c'est plutôt des difficultés de compréhension de ce qui se joue à l'école et des implicites. C'est quelque chose que vous avez énormément évoqué. Et évidemment, hein, pour aller un petit peu vite, si c'est cette difficulté-là qui prédomine, alors il y a une espèce de relation de cause à effet, hein, alors au niveau de l'accompagnement éducatif, il va falloir peut-être le raisonner en termes d'aide, et plutôt d'aide à la manière d'Anne-Marie Chartier, c'est-à-dire où il faudrait apprendre l'école pour apprendre à l'école. Et donc là, les gens sont relativement satisfaits parce que du coup, ils voient comme ça ce problème. profiler une espèce de voie et ouf, on est sauvé, on sait à peu près ce que l'on va faire. Si les difficultés sortent d'ordre scolaire, c'est-à-dire si elles sont d'ordre disciplinaire, c'est-à-dire si elles sont d'ordre didactique et au niveau de l'organisation didactique. Par exemple, démontrer en SVT, est-ce que c'est la même chose que démontrer en mathématiques ? Si cette difficulté-là est une difficulté disciplinaire et de type de l'organisation didactique de la discipline, alors l'aide peut peut-être être de l'ordre du soutien. Et là, ce soutien aussi, par les expériences évoquées, hein, peuvent aussi se situer à deux niveaux. Soit c'est un soutien qui sera de type remédiation et on revient sur des savoirs et des connaissances fondamentales non acquises, ou en tous les cas décidées par l'enseignant comme étant non acquises et fondamentales. Soit, c'est une expérience qui a été rapportée dans le deuxième groupe de l'après-midi, de hier après-midi, soit on peut envisager une anticipation, hein, c'est un petit peu ce que je vous disais hier aussi avec le choix qui a été fait en primaire, hein, c'est-à-dire apporter une aide à des élèves en imaginant qu'on va les préparer aux activités à venir. Voilà. Donc, là aussi, il y avait quand même pas mal de réticences parce que envisager cet accompagnement éducatif autour de la nature de cette aide-là, eh bien, ça pose un certain nombre de questions. Ça vient rediscuter la doxa socio-constructiviste, c'est-à-dire si finalement on dévoile le savoir avant qu'il ne soit construit, est-ce que là, on n'est pas justement dans un effet Jourdain ? Est-ce qu'on ne fait pas croire aux élèves qu'ils font quelque chose alors qu'ils ne savent pas le faire ? Est-ce qu'on ne leurre pas les élèves ? Est-ce que finalement, ils vont véritablement apprendre puisqu'on a déjà donné la réponse ? Alors ça, c'est assez intéressant parce que l'inspectrice de l'école avec laquelle nous travaillons, voyez, elle n'a pas vraiment réussi à dire ce que devait être cette aide de type anticipation, mais elle a décliné un certain nombre de choses de ce qu'elle ne devait pas être. Et entre autres, hein, elle ne doit pas être du prémâchage. Et là, il me semblait que dans cette idée de prémâchage, ça rappelait un petit peu ce que vous aviez évoqué. Voilà. Alors ça, c'était du côté des élèves. Vous avez évoqué aussi du côté des assistants pédagogiques. Évidemment, vous vous êtes mis, parce que vous êtes sollicité par Janine, vous vous êtes mise à la place de cette pauvre assistante pédagogique qui se retrouve à gérer tout un ensemble de choses où elle a des difficultés, elle aussi, qui sont multidimensionnelles, d'ordre différent. D'une part, bien entendu, des difficultés d'organisation, puisqu'on l'a bien compris, il y a des entrées intempestives d'élèves qui arrivent avec des préoccupations, parce que il n'y a pas que les enseignants qui ont des préoccupations, les élèves aussi, hein. Donc des préoccupations là qui sont par exemple du jeu du bac, etc. Donc avec des élèves assez bruyants, hein. Et puis on a la petite Safia là qui a quand même cette obligation et puis ce devoir à faire. Alors on ne sait pas vraiment si elle a vraiment envie de faire ce devoir. En tous les cas, l'assistante pédagogique a décidé que c'était la préoccupation de Safia et elle va l'y maintenir. Donc là, au niveau des assistants pédagogiques, hein, ça pose la question de quelle professionnalité de ces assistants pédagogiques en quatre points, il m'a semblé, c'est-à-dire ça renvoie à la professionnalité, si professionnalité il y a des assistants pédagogiques. Évidemment, la première question, c'est quelle professionnalité avec les compétences qu'ont les assistants pédagogiques. Alors les compétences, ce sont des compétences qui sont tout à fait... je ne vais pas dire lacunaires, mais qui sont arbitraires, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir un assistant pédagogique qui est en train de préparer un master de sciences et qui, du coup, sera très au fait de ces questions-là. Mais on peut avoir une assistante pédagogique qui est sur des questions, par exemple, de théâtre, comme c'est le cas ici, et peut-être que les questions de division cellulaire ou du nid et pluricellulaire sont quand même assez problématiques. Donc là, ça pose la question, évidemment, à la fois des compétences de l'assistant pédagogique, mais du coup, ça renvoie aux questions de quelle est la nature de l'aide, de l'accompagnement éducatif, et quelle est, troisième point, la plus-value, hein, compte tenu des moyens alloués en réseau ambition réussite, hein, moyens matériels et moyens humains, quelle est la plus-value de cet apport à la fois de l'accompagnement éducatif et des assistants pédagogiques dans cette question du travail personnel. Voilà, ça c'est une question que vous avez beaucoup évoquée, à savoir quelle est la plus-value. Hein. Il y a même une collègue tout à l'heure qui a dit mais on n'a qu'à supprimer les assistants pédagogiques parce que finalement, ça ne sert à rien. Finalement, il y a beaucoup de perversité dans ce système d'ambition réussite parce qu'à la fois, on déleste, on décharge, on externalise l'aide, hein, c'est-à-dire ce qui est finalement le cœur, le noyau de l'activité la plus difficile, hein, on l'externalise finalement à des personnes, à des partenaires qui sont probablement moins formés sur des situations précaires et dont on sait qu'ils sont là pour 2 ans, renouvelables une fois. Voilà, donc là, ça pose aussi, bien sûr, hein, cette question, je dirais, interpersonnelle entre les différents partenaires et les différents acteurs sur les différents milieux de travail. On peut se poser la question, mais c'est bon, peut-être moi qui vous la pose aussi, est-ce que là, il y aurait l'émergence de professions intermédiaires, c'est-à-dire de gens qui seraient avec des statuts particuliers sur des formes scolaires particulières, c'est-à-dire des dispositifs à l'étude qui seraient comme ça situés à la périphérie du noyau dur, hein, qui serait la classe avec le vrai prof et les bons élèves. Bon, c'est une question que je vous lance comme cela. Et puis, bien sûr, les enseignants. Alors, paradoxalement, cette question a été le parent pauvre, hein, puisqu'il s'agissait d'un élève et d'un assistant pédagogique. Mais globalement, quand même, elle a été évoquée en se demandant, finalement, l'enseignant, là, il va avoir... Quel va être son travail dans le retour en classe ? C'est-à-dire, comment va-t-il gérer le retour en classe des élèves avec la nature de l'aide dont ils ont bénéficié ? En sachant que cette aide est très inégalitaire, hein, Patrick nous l'avait dit hier matin, elle peut être faite avec des professeurs référents, elle peut être faite avec ses assistants pédagogiques, etc., etc. Voilà. Donc là, on voit bien que cette question de l'accompagnement éducatif vient vraiment toucher, encore une fois, hein, si on n'en était pas convaincu, là, à nouveau, ça insiste sur cette question-là, c'est vraiment la question du métier, de la construction du métier dans l'ordinaire de la classe au quotidien, bien entendu, avec cet enseignant qui va devoir faire, hein, plus ou moins bien, de manière plus ou moins efficace, hein, avec l'introduction de ces nouveaux partenaires et de ces nouvelles aides qui vont venir reconfigurer, là aussi, hein, le travail qu'il va pouvoir avoir dans l'interrelation avec ses élèves. Et puis, j'ai encore une minute ou pas ? Et puis... Voilà, donc en conclusion, il me semblait qu'on pouvait dire que là, il y avait l'illustration, hein, de cette complexification, c'est-à-dire, en tous les cas, tenir compte de l'autre dans sa nouvelle manière de penser le travail. Ça, c'est quelque chose qui apparaît de manière assez importante. Je dirais à la fois du côté, bien entendu, de l'enseignant, hein, du côté de l'assistant pédagogique, c'est-à-dire comment il fait avec ou sans le prof, avec un peu des indications du prof, pas du tout, moyennement, bon... Comment il fait ? Et puis je dirais avec l'élève aussi, hein, cet élève, on est quand même dans une situation des plus paradoxales. Alors vous avez parlé de perversité, de perversion. Bon, moi je vais m'en tenir à une position quand même assez paradoxale, c'est-à-dire voilà un lieu où finalement les élèves sont relativement en difficulté, et c'est dans ce lieu-là finalement où l'organisation est des plus complexes aussi. Parce que cet élève va bénéficier... ou subir, alors je suis un peu dans la provocation, mais va subir tout un tas de dispositifs d'aide à l'étude avec tout un tas de partenaires et de compétences différentes, avec des implicites tous très différents. Et finalement, la question, c'est qui fait les liens, hein ? Tout à l'heure, on a dit, ce prof, il a probablement pas lu sa fiche, mais qui va faire le lien entre le cours de SVT et ce qui se fait pendant ce dispositif d'aide à l'étude ? Probablement, on le sait, hein, sans tomber dans un discours misérabiliste, hein, c'est probablement laissé à la charge de l'élève. Voilà. Alors, est-ce que l'assistant pédagogique doit faire le lien entre ce qui se passe dans le cours et ce qu'il doit comprendre ? Mais alors, ça impliquerait qu'il soit présent dans la classe, ça impliquerait qu'il construise des compétences, et est-ce qu'alors, sur le plan politique et éthique, est-ce que ces compétences doivent-elles être construites compte tenu du statut qu'il a ? Bon, voilà. C'est donc différentes facettes, hein, de cette dimension qui apparaissent là, à la fois ce que vous avez évoqué, hein, il y a des dimensions tout à fait interpersonnelles. C'est-à-dire que les collègues ici ont rappelé, mais finalement, quelles sont ces prescriptions, hein ? C'est quoi les prescriptions de l'accompagnement éducatif ? Dans quelle zone de normatif, c'est-à-dire il faut diminuer les inégalités et permettre à tous de réussir, mais dans quelle zone de flou, de comment on s'y prend pour aider les élèves, finalement ? Vous avez évoqué aussi toute la question interpersonnelle, hein, c'est-à-dire entre les différents acteurs. Les tensions qu'il y a entre les uns et les autres, aussi cette évolution qui fait qu'on a un regard sur le travail de l'autre, qui peut aussi générer un certain nombre de tensions, mais qui amène aussi à des expériences, je crois que cet après-midi on aura l'occasion d'en parler, à de nouvelles expériences de comment on gère ce travail dans les établissements, d'une formation de 5 jours, là, la collègue qui a évoqué ça hier. Et puis, ça a ramené finalement ces documents, ont ramené parfois, pas souvent, mais ont ramené parfois, ont pris la dimension du prétexte, hein, en se disant, mais moi, quand je vois ça, ça me fait penser que, finalement, chez nous, on fait comme cela, ou on pourrait faire autrement. Donc, du coup, ça vous a amené à vous poser des questions de comment vous pouviez, finalement, retoucher à ces prescriptions, comment vous pouviez mettre ces prescriptions à votre main pour en faire quelque chose, peut-être, de plus efficace au sein même de vos établissements. Et ma conclusion, c'est de dire, finalement, peut-être, hein, comment on peut recréer, par ces journées de formation, des milieux de travail avec pour fonction, hein, ces milieux de travail, de se reposer ces questions, c'est-à-dire comment chez vous ensuite, au sein de vos réseaux, hein, avec ces partenaires, ces différents milieux de travail, comment vous pouvez vous réapproprier ces questions et comment vous pouvez les remettre au travail. Voilà.